les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Avec son air aristocratique, tendre et cruel à la fois, mystérieux et familier, Pina Bausch me souriait pour se faire connaître. Une religieuse qui mange une glace, une sainte en patin à roulettes, une allure de reine en exil, de fondatrice d'un ordre religieux, de juge d'un tribunal métaphysique qui soudainement te fait un clin d'œil. Ainsi, Federico Fellini dessinait-il en quelques traits celle qui était la princesse Lerimia de son film « Elana Veva ». C'était au tout début des années 80 et la danseuse et chorégraphe allemande n'était pas encore la référence absolue, le mythe qu'elle allait devenir par la suite, bien au-delà du monde de la danse. Elle ne l'était pas encore non plus quand en 1985, dans Les Nuits Magnétiques, Chantal Aubry faisait le voyage de Wuppertal pour rencontrer ceux qui travaillaient alors à ses côtés. Il lui disait pourquoi on rejoignait Pina Bausch au Tanztheater de Wuppertal et pourquoi on y restait. En 2009, après sa disparition brutale, quand il dut dire adieu à Philippine Bausch, dite Pina Bausch, ce fut à la question « comment continuer sans elle » qu'ont dû faire face les membres de la compagnie, certains de ceux que l'on va entendre dans cette nuit magnétique. En les écoutant témoigner en 1985 de l'expérience aussi exigeante qu'enthousiasmante qu'ils vivaient auprès d'elle, on comprendra peut-être mieux pourquoi ils décidèrent, après elle, de continuer à faire vivre le Tanztheater Wuppertal et l'immense répertoire de Pina Bausch. Nuit magnétique, Pina Bausch et les Tanztheater de Wuppertal, une émission de Chantal Aubry, diffusée la première fois le 8 avril 1985 sur France Culture, dans laquelle on entendait Dominique Merci, Jean-Laurence Asportès, Jean-François Durour, Anne Martin, Lutz Forster, Jacques Patarozzi et Pina Bausch.
Oh, I think we try to do many things. And we did Sacre again, we do Bluebeard again, we do Komm Tanz mit mir again. And so this one we couldn't do.
Bonsoir. Numéro spécial des Nuits Magnétiques consacré à Pina Bausch. C'était en 1979, quelques Parisiens avertis découvraient Barbe Bleue, premier électrochoc. Un jour, c'était en 1980, la profession théâtrale au grand complet recevait en plein coffre Café Muller. Dans les deux cas, une danse violente, répétitive, des images étouffantes, misérables et superbes. La signature, Pina Bausch. Ainsi, aux abords de l'horizon 80, une véritable petite révolution s'annonçait dans le monde du spectacle. Les symptômes en étaient fort divers. Les uns clamaient leur admiration, pendant que dans le même temps, interrogations, critiques, rejets fusaient de tous côtés. Certains braillaient même au viol, incapables en tout cas de reconnaître la forme nouvelle, ni danse ni théâtre, que Pina Bausch leur proposait. Depuis 6 ans, à Paris, Avignon, Lyon, Grenoble, Nice, le Tanztheater de Wuppertal affiche imperturbablement complet partout où il passe, même dans les salles houleuses. En France, en Europe et depuis peu aux États-Unis, l'effet Bauche se propage. Le mystère demeure. Car que sait-on au juste de Pina ? Est-elle douce ou violente ? Humaine ou sadique ? Compatissante ou brutale ? Tendre, vampire, drôle, désespérée ? Ou tout cela à la fois ? Et que fait-elle en réalité ? Que met-elle en scène ? Des comédiens qui dansent ? Des danseurs qui jouent la comédie ? Des hommes, des femmes ordinaires ? Du théâtre mais sans histoire ? Du texte mais intermittent ? Des hommes en robe fanée ? Des crocodiles, des chiens de garde, de l'herbe, des œillets, de la terre, de l'eau. Alors, que sait-on au juste de Pina ? Pas grand-chose, si ce n'est quelques lieux d'ores et déjà communs et quelques inévitables données de base. C'est sur ces données de base que nous nous sommes lancés hardiment. Comme beaucoup d'autres pèlerins du culte Bauch, nous avons pris l'avion jusqu'à Düsseldorf, puis le train jusqu'à Wuppertal, puis le Schwebebahn, le fameux métro suspendu jusqu'à Barmen, la banlieue d'à côté. À l'Open House, au lieu des exploits de Pina, nous avons vu, écouté, enregistré, arpenté les lieux d'un feu rouge improbable à l'autre et d'un feu rouge aussi interminable. Et auprès de Pina et de quelques-uns de ses danseurs et des fidèles de la première heure, ceux qui s'en vont, ceux qui restent, ceux qui vont et viennent, ceux qui arrivent, nous avons écouté. En fait, on reste longtemps chez Pina Bauch. Et on n'est pas dévoré pour autant. On a beaucoup d'histoires à vivre, à montrer, à raconter. En voici un aperçu.
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130,
une certaine manière de rester.
Moi, je suis resté parce que j'avais chaque année l'impression qu'il y avait des choses qui se débloquaient en moi, enfin que je découvrais des choses que peut-être je connaissais, mais en fait c'est que je pouvais expérimenter. Et je sentais que j'avançais de plus en plus dans ma confiance en moi sur scène, dans le travail par rapport à ce que Pina demandait. Et jusqu'à maintenant, j'ai jamais voulu arrêter un processus qui me donnait toujours l'impression d'évoluer, que je ne voulais pas interrompre en cours de route. Il y a aussi le fait que il n'y avait rien, et enfin, je n'ai rien rencontré d'autre qui m'intéresse à ce point-là.
Donc, Jean-Sas Portez, vous êtes dans la compagnie Pina Bausch depuis 6 ans.
6 ans, oui.
Vous êtes un des plus anciens, maintenant ?
Non, pas vraiment. Ed Cortland, Yann Minarek sont là depuis 10 ans. Enfin, depuis que la compagnie a été créée. Dominique Merci, par exemple. Anne est dans la compagnie, Anne Martin est dans la compagnie depuis 7 ans, 8 ans.
Oui.
Anne-Marie aussi.
Elle ne peut pas parler de choses douces, paisibles, rigolotes, etc. Quand on pense au monde qui est, enfin, je veux dire, à l'univers dont elle rencontre, enfin, je veux dire, au monde qui, il n'y a rien de doux, de paisible et d'agréable en ce moment autour de nous.
Oui, mais il n'y a pas que. Bon, c'est vrai que la réalité est assez dure, mais enfin, il n'y a pas que ça.
Oui.
C'est-à-dire, je pense que, de toute manière, dans ces pièces, à part Gebirg, hein, mais souvent, dans ces pièces, je vois un peu les deux formes qui sont montrées. Par exemple, Valls, c'est-à-dire, quoi qu'elle dise pendant toute la pièce, quand elle montre la naissance du gosse, c'est quelque chose qui, pour moi, fait équilibrer la balance. À moins qu'on considère. Enfin, je sais pas, mais. Par exemple.
Oui, mais en fait. Ça, c'est le désespoir absolu et l'acte de foi que représente effectivement à la fin de la pièce une naissance, le boyer. En fait. C'est aussi du désespoir, quand même, d'une certaine manière.
Non. Moi, je le sens pas que comme du désespoir. Bon, les faits, de toute manière, comme elle a dit, c'est juste. plus ou moins la même chose que ce que pourrait raconter n'importe quel danseur qui est dans la compagnie. J'ai commencé assez tard dans une compagnie qui était au début jazz, qui ensuite a été plutôt moderne. Bon, c'était une petite compagnie de province. Ensuite, j'ai été à Paris. J'ai travaillé avec Peter Goss, surtout. Bon, j'ai pris les cours, comme tout le monde. Et puis, j'étais à Munich. Et voilà, des gens qui me connaissaient, enfin, qui me connaissaient personnellement, m'avaient dit, pourquoi tu vas pas chez Pina? Et quand ensuite j'ai su qu'elle avait besoin de garçons, je téléphonais pour venir auditionner. Voilà, j'ai auditionné, puis évidemment, à partir de là, il y a pas mal de choses qui ont changé, bien sûr. Maintenant, avant d'être chez Pina, j'avais vu pas mal de choses. Hein. C'est-à-dire, j'ai eu une évolution, je crois, très normale, mais très rapide. Oui, une chose qui m'a assez frappé dans sa manière de travailler, c'est... Cette ténacité avec laquelle elle essaye toutes les solutions possibles. Bon, si par exemple elle a plusieurs scènes qu'elle essaye de mettre ensemble, elle ne sait pas vraiment dans quel ordre, quels éléments vont aller avec quels éléments, elle va tout essayer, même les choses qui a priori sembleraient ne pas pouvoir coller, elle va les essayer parce qu'on ne sait jamais ce que ça pourrait donner, et même si elle trouve une solution qui a priori pourrait être satisfaisante, elle va continuer d'essayer parce qu'on ne sait jamais ce qui pourrait venir. Il y a quelque chose que l'on apprend plus ou moins, mais enfin qui est très difficile, et je crois qu'en fait, c'est par exemple, elle pose une question, on présente quelque chose. À partir de là, bon, des fois ça, ce qu'on présente ne colle pas ou ne marche pas. Puis des fois, ça, il y a quelque chose. Dans cette petite improvisation, il y a quelque chose qui... Bon, arriver à sentir pourquoi ou où est-ce qu'il y a quelque chose et arriver à ne pas le perdre. C'est-à-dire quand on aura à le refaire, parce qu'évidemment, une fois qu'on l'a fait, qu'elle aura noté... 4 semaines, 2 semaines plus tard, elle va nous le redemander pour essayer d'utiliser ce matériel. Donc évidemment, là, il est important de ne pas le perdre. Il y a quelqu'un, par exemple, qui s'appelle Meryl Tanka. C'est quelqu'un qui est toujours, bon, elle n'est plus dans la compagnie, mais j'imagine qu'elle a toujours ce talent, qui est parfaite sur ce plan-là. C'est-à-dire, elle présente quelque chose, ça colle, elle pourra le refaire 3 semaines, 4 semaines plus tard, ça sera exactement aussi bon. Hein. Et ça, c'est quelque chose qui est important, surtout important pour Pina, par exemple, parce qu'évidemment, même si on lui présente un matériel très intéressant, qu'on arrive à être très comique, qu'on arrive à être quoi que ce soit au niveau de la première... au moment où on présente l'improvisation, ça ne lui sert absolument à rien si ensuite on n'arrive pas à le refaire. Bon, maintenant, il est évident qu'elle n'attend pas que chacun puisse toujours resservir la même chose de la même manière, parce que sinon... Bon, là, il faudrait nous considérer comme vraiment un gros technicien et ça travaillerait presque contre son travail.
Comment ça se passe, la pré-préparation d'une pièce?
La pré-préparation se passe d'abord au niveau de Pina. C'est-à-dire, je veux dire, c'est plus ou moins ce qu'elle aura vécu personnellement, ce qu'elle aura vu autour d'elle, Bon, ensuite, la première phase de la préparation se passe au niveau des questions qu'elle va nous poser. Elle arrive, bon, chacun arrive avec son cahier blanc, hein, comme le premier jour à l'école. Elle a une plus ou moins une liste plus ou moins grande de questions. Ces questions peuvent aller vraiment dans toutes les directions. Ça peut être des questions dans le style... comment est-ce que vous réagissez quand vous voyez quelqu'un qui vous plaît dans une pièce et que vous voulez attirer son attention? Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes chez vous, que vous êtes tout seul et que vous êtes déprimé, par exemple? Ça peut être des questions beaucoup plus fantastiques, style une scène dans les bois, ou bien la Lorelai. Ça peut être une question où elle nous demande un petit pas glissé, ou un petit pas sauté, ou un petit pas mignon. Ça peut être quelque chose à raconter. Par exemple, bon, comme on retrouve dans Vals, hein, quelle a été la phrase que vos parents vous ont toujours dit? Ou bien, comme dans Nelken, quand est-ce que vous avez envie de faire pipi? Ça peut aller dans toutes les directions. Évidemment, pour elle, l'ensemble des questions, quelle que soit la question, a un sens. Voilà, à partir de là, donc, chacun présente ce qui lui vient à l'esprit. Ça fait une quantité de matériel. Un mois plus tard environ, elle, de son côté, évidemment, propose des mouvements que les gens travaillent, sans que l'on sache ce qu'on va en faire, elle non plus. Un mois plus tard, plus ou moins, elle essaye de... C'est comme un cinéaste qui aura tout son matériel en bobine, qui ensuite va essayer son montage.
Après Pina Bausch, c'est...
Si je vois mon point de vue personnel par rapport à moi, parce que pour les autres, je ne sais pas vraiment. Je ne peux faire qu'imaginer, mais pour moi, je crois qu'effectivement... l'idée, par exemple, de me retrouver dans une compagnie où le travail serait un rapport essentiellement danseur-chorégraphe avec un chorégraphe qui va me donner des mouvements à faire, ou ça me semble quelque chose d'un peu étrange.
Philippina Bausch est née en 1940 à Solingen, dans la Ruhr, tout près de Wuppertal. Elle grandit dans l'Allemagne de la Reconstruction et du miracle économique. Elle appartient à la première génération d'après-guerre, celle de la mauvaise conscience, du malaise, de l'interrogation. Celle qui produira dans les années 70 des écrivains comme Hartenbusch, Thomas Brasch, Peter Schneider, Peter Kodiewicz, des cinéastes comme Herzog, Fassbinder, Rainer Auf, des terroristes aussi. Elle sera chorégraphe. En 1955, elle entre à la Volkwangschule d'Essen sous la direction de Kurt Jooss, le grand maître de l'expressionnisme, créateur en 1932 de la célèbre Table verte, ballet considéré aujourd'hui comme une vision prémonitoire de la Deuxième Guerre mondiale, ballet qui dénonçait en tout cas clairement et non sans candeur la violence politique et militaire. En 1960, elle est aux États-Unis, à la Juilliard School, au lieu de la danse moderne en Amérique. Elle travaille avec des gens aussi divers qu'Anthony Tudor, José Limón, Martha Graham, Margaret Krask, Louis Horst. Elle travaillera également avec Paul Sanassardo, puis chez Paul Taylor. En 62, Kurt Jooss remonte une compagnie. Pina Bausch le rejoint. Elle y sera soliste pendant de longues années et créera ses premières chorégraphies. En 68, Fragments, sur une musique de Béla Bartók. Elle travaille également beaucoup avec Jean Sébron, qui aujourd'hui encore anime toujours la Volkwangschule et fait travailler les danseurs de chez Pina. Soliste, chorégraphe, bientôt directrice de la compagnie, elle retourne en 72 à New York, dans la compagnie de Sanassardo. C'est à cette époque qu'elle rencontre des gens comme Dominique Mercy, Malou Araïdo et Jacques Patarozzi, qui quelques temps plus tard compteront parmi les premiers danseurs de la compagnie qu'elle créera à Vous Portal. C'est en effet en 1973 qu'elle prend la direction du Tanz Theater. Parmi les premières pièces remontées, La Table Verte. Ses premières créations à elle, un travail chorégraphique sur l'opéra de Gluck, Iphigénie en Tauride, puis une revue, Zwei Krawatten, deux cravates, et Ich bringe dich, die Ecke. Premier travail sur de vieux succès et autres rengaines populaires. La même année, elle chorégraphie également sur des leaders de Mahler. En 1975, après Orphée Eurydice, trois ballets sur du Stravinsky, dont le Sacre du Printemps, que le public français découvrira la semaine prochaine au Théâtre de la Ville. À partir de cette date, tous les titres de ses créations sonnent familiers. Au total, une quinzaine de pièces qui figurent ou vont figurer au répertoire de la compagnie. 76, Les Sept Péchés Capitaux, musique de Kurt Weill, donnée en France l'année suivante au Festival de Nancy. 77, Barbe Bleue, comme Tanz mit mir. 77, c'est l'année charnière, celle où Pina Bausch met en place son grand théâtre à elle, où elle passe des pièces totalement chorégraphiées aux pièces dites éclatées, dans laquelle danse et performance se mêlent. Premier exemple du genre, Renate van der Taus, remontée cette année à Wuppertal, dans lequel la danse est omniprésente encore et superbe. Suit en 1978, Café Müller, pièce constamment reprise depuis la création. Un pur chef-d'œuvre de danse pure. En 1978 aussi, Contact Off, l'une des pièces les plus construites et peut-être l'une des plus fortes, en tout cas l'une des plus représentatives de son style. En 1979, Ariane, jamais dansée en France pour des histoires d'eau. Puis La Légende de la Chasteté, une histoire de crocodile. Et surtout, en 1980, Ein Stück, pièce qui, avec Contact Off, sera l'année suivante, en 81, l'une des révélations du Festival d'Avignon. Suit Bandoneon, l'une de ses œuvres peut-être les plus déchirantes, loin de l'insouciance apparente et des railleries d'une Renate ou même d'un Contact Off. En 81, la naissance de son fils interrompt un moment, pas très longtemps, le cycle de ses créations. Dès 82, Nelken, la fameuse pièce au plateau semé de lierre rose, et Walzer, pièce fleuve à la fois goguenarde et cruelle, conduisent Pina Bausch dans la cour d'honneur du Palais des Papes, et puis aussi la conduit surtout jusqu'au bout de ce qu'on pourrait nommer une certaine désespérance. Alors après Walzer, quoi? Eh bien, depuis 83, la reprise du répertoire et deux nouvelles créations, Gebirge, et en 84, cette année, une pièce qui n'a pas encore de titre, comme c'est souvent le cas au début chez Pina, et à propos de laquelle Jacques Patarozzi, parmi d'autres, aura tout à l'heure l'un des derniers mots. Jean-François Durour, arrivé.
10h le matin, training, cours classique ou cours de danse moderne, jusqu'à 11h30. Midi, 2h, répétition au Lichbourg avec Pina. Alors, ou travail de création ou répertoire, ça dépend. L'après-midi est libre de 14h jusqu'à 18h. Et 18h, 22h, on recommence. Et ça tous les jours.
Mais entre 14h et 18h, beaucoup d'entre vous prennent d'autres cours, font d'autres choses ou d'autres.
Prendre d'autres cours, non. Mais c'est vrai que l'après-midi, c'est le seul moment pour nous où on peut faire d'autres choses. Parce qu'on n'a aucune soirée de libre. Et ça dépend. Anne prend des cours de chant, Bénédicte des cours de saxophone, Dominique du violoncelle, de l'aïkido. Oui, voilà. Enfin, ça dépend. Moi, je dors.
Pour la première création à laquelle vous avez participé, vous avez travaillé combien de mois dessus?
Quand je suis arrivé, j'avais déjà commencé à travailler depuis un mois. Mais à peu près pour une création, je crois qu'il lui faut entre 6 et 8 semaines, 2 mois à peu près, peut-être un peu plus, ça dépend. Non, c'est pas énorme.
Elle est tenue de faire deux créations
chaque année. Mais depuis à peu près 2 ou 3 ans, elle a le choix entre reprendre une pièce de répertoire qu'elle ne montre plus ou une nouvelle pièce. Et c'est ce qu'elle a fait cette année avec Renate ou l'année dernière avec les 7 péchés capitaux, la soirée Brecht.
Même en dehors des périodes de préparation d'une création, vous travaillez quand même tous les jours, vous êtes pris tous les soirs, c'est-à-dire vous travaillez quand même tous les jours jusqu'à 10 heures.
Oui, parce que, enfin pour moi c'est comme ça, ça a été comme ça jusqu'à présent, parce que j'ai plein de pièces à apprendre. Et dès qu'il y a du temps libre, moi je passe pour apprendre toutes les pièces de répertoire.
Oui, c'est quand même, enfin, pour quelqu'un qui a travaillé dans d'autres, qui a déjà quand même, vous avez l'expérience d'autres compagnies, etc., c'est vraiment un rythme de travail plus intensif.
C'est la compagnie où il y a le rythme de travail vraiment le plus intensif. Parce qu'il y a le travail de création et en même temps toutes les pièces de répertoire qui sont énormes, qui ont un travail énorme à apprendre. Bon, avec François Véret, il y avait aussi un rythme de travail assez intensif, mais là c'est simplement pour une création, c'est-à-dire ça va durer 2 mois et une fois que la création est terminée, bon, ça va. Mais avec Pina, c'est et la création et en même temps apprendre les pièces de répertoire. Et ça, les pièces de répertoire, il y en a 14. Hein. J'en connais pour l'instant 2, 3, 4, 5. Et ça fait presque un an que je suis là.
Beaucoup d'encre a coulé sur le fait d'être à vos portables, d'être complètement émargé. Mm-hmm. Comment vous le ressentez, vous, après un an, justement?
Quelque part, je trouve que pour Pina, c'est bien, justement, qu'on soit installé à vos portables. Parce que c'est vrai, moi, c'est une ville où je ne viendrais jamais si ce n'était pas pour Pina. Je n'ai absolument rien à faire ici. Et je vis ici pour Pina, enfin, pour le travail de Pina. Et c'est vrai qu'en vivant ici, je suis complètement disponible pour elle. Elle pourrait me demander de venir toute la journée. J'ai que ça à faire, pratiquement. Mais c'est vrai que vivre à vos portables, c'est... Pour moi, c'est vraiment difficile, quoi. Parce qu'on est complètement isolé de tout. Question de danse, il n'y a rien. Enfin, je veux dire, s'il y a l'école à Essen.
Vous êtes là pour travailler avec Pina, mais ça, vu comme ça, ça a l'air d'être de l'apostolat. C'est quand même pas ça.
Non, mais pour moi, le travail de Pina, c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de faire depuis très très longtemps. C'est-à-dire qu'elle soit à Wuppertal ou qu'elle soit n'importe où, c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de faire et que je veux faire pendant une certaine période. Alors j'ai vraiment envie de, puisque maintenant je suis dans la compagnie, de pouvoir profiter de ce travail avec elle au maximum. Alors peut-être que ça va durer, je sais pas, 3-4 ans, je sais pas combien de temps j'ai envie de rester.
Bon, vous donnez déjà par exemple 3-4 ans. C'est-à-dire, c'est une expérience qu'on fait, qu'on mène le plus loin possible, mais comme une expérience quand même.
Oui, pour moi c'est une expérience, c'est le plus intéressant, c'est ça. J'ai pas du tout l'intention de m'installer à Wuppertal et de finir ma vie ici. Pour moi, Pina, c'est vraiment une expérience. Mais c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de vivre au maximum. C'est-à-dire que quand je travaille avec elle, je lui donne absolument toutes mes possibilités. Je me rends complètement disponible pour elle. Mais je sais que c'est quelque chose qui ne durera pas tout le temps. Ça, j'en suis pratiquement sûr. Puis jusqu'à présent, tout ce que j'avais fait, c'était des choses qui étaient vraiment dansées. C'est-à-dire qui touchaient que la danse, plus ou moins des choses techniques. Mais depuis que je travaille avec Pina, c'est complètement différent. Parce que Pina, ça touche autre chose que simplement la technique. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de travail d'acteur, qui n'est pas vraiment d'acteur ou de comédien. Je ne sais pas comment on explique, mais pour moi, ça touche. C'est beaucoup, le travail de Pina, c'est beaucoup plus ouvert. C'est-à-dire que ça peut être des choses physiques, pas forcément de la danse. Ça peut toucher la parole ou chanter, plein de choses. Quoi. C'est beaucoup plus. Il y a une ouverture beaucoup plus grande. Et c'est ça qui m'intéresse, en fait.
Est-ce que, par exemple, par rapport à ce que tu. Qui étaient tes critères ou tes points de repère, si tu veux, à Paris, est-ce que tu as l'impression, depuis que tu avais à Wuppertal, d'avoir des changements de
oui,
vision?
C'est-à-dire que ce que j'ai découvert ici, la danse en Allemagne, c'est vraiment une histoire que je ne connaissais pas du tout, qui est vraiment très différente de la danse, comme on peut l'enseigner en France ou aux États-Unis. C'est vraiment une histoire complètement différente. Et c'est vrai que depuis ici, j'ai appris à ce qu'un mouvement puisse être beaucoup plus sensible. Je ne sais pas comment expliquer. Ici, il y a une espèce de sensibilité qui est beaucoup plus forte que tous les spectacles qu'on peut voir en France, surtout comment la danse est enseignée. C'est-à-dire qu'ici, quand on parle de mouvement, ça correspond vraiment à une espèce de sensibilité qui est très très intérieure et qui n'y a peut-être pas dans les compagnies américaines ou en France.
C'est ce sur quoi s'oriente la France actuellement.
Oui, c'est ça, voilà, c'est ça. Et, bon, moi, jusqu'à présent, j'avais étudié surtout des techniques comme Cunningham ou ce genre de choses. Et en arrivant ici, c'est vrai que c'était quelque chose de complètement différent. Mais depuis que je suis ici, j'ai vraiment découvert qu'il y avait qu'on pouvait mettre dans la danse, on pouvait nourrir la danse d'une sensibilité qui peut être vraiment très très intérieure et pas simplement.
Oui, mais dans l'intérieur d'un individu comme toi, c'est pas forcément contradictoire. Après tout, je veux dire que on peut être formé à travers Viola Farber et d'autres choses que tu as pu faire à Paris. On peut être formé à Duke Cunningham et en même temps prendre ce qu'on a à prendre du côté de Pina Bausch. Enfin,
oui, mais complètement. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est à toi de savoir qu'est-ce que tu veux avec la personne avec qui tu travailles, qu'est-ce qu'elle peut t'apporter et qu'est-ce que tu peux tirer, qu'est-ce que tu peux apprendre d'elle. Et c'est pour ça que je danse. Et avec Pina, il y a tellement justement de choses que tu peux apprendre. Mais en même temps, ce qui est spécial avec Pina, c'est que, bon, elle donne pas vraiment. C'est-à-dire, elle va pas dire comment on fait les choses. on t'apprend, tu apprends la chose et tu fais comme toi tu le ressens. Mais ça le pousse tellement loin, quelque part tu apprends tout seul à savoir comment est-ce qu'il faut faire les choses. Sans qu'elle ait vraiment besoin de te dire comment tu dois la faire.
Il peut y avoir des moments où c'est dur, ou c'est décourageant.
Oui, c'est vrai que c'est dur. Parce qu'elle, c'est vrai, elle dit rien, elle donne pas vraiment de... Ou alors quand elle essaye de t'aider, c'est une petite phrase, c'est un mot comme ça. Mais en même temps, moi je trouve que c'est une très bonne école.
He'll look at me and smile, I'll understand, and in a little while, he'll take my hand, and though it seems absurd, I know we both won't say a word. Maybe I will meet him someday, maybe Monday, maybe not, till I'm sure I'll meet him one day, maybe Tuesday will be mine. Day. He'll build a little home, just meant for two, from which I'll never roam. Oh, would you? And so all else above, I'm waiting for the man I love. Maybe I will meet him someday, maybe Monday, maybe not. I'm sure I'll meet him one day, maybe Tuesday will be my good news day. He'll build a little home, just meant for two, from which I'll never roam. Oh, would you? And so all else above, I'm waiting for the man.
Dominique, merci. Allez, venir.
Qu'est-ce que c'est que d'être un morceau d'histoire de...
Carrément.
Je suis pas un morceau entier d'histoire. Je suis des chapitres d'histoire parce que j'étais là au début et puis je suis parti deux fois. Alors j'ai entrecoupé ça. J'étais prendre un peu l'air, faire d'autres choses. Et puis j'avais envie de prendre un peu de recul. Et ça m'a fait beaucoup de bien d'ailleurs parce que ça m'a permis de réaliser plein de choses par rapport à Pina, par rapport de j'ai vu des spectacles que j'avais pas eu l'occasion de voir. Les spectacles que j'ai appris plus tard, je les ai vus avant de les faire. Et ça m'a énormément servi d'une certaine manière. Ça m'a permis peut-être que j'avais pas à cette époque-là que j'avais pas la force de faire le chemin tout seul à l'intérieur. Alors ça m'a aidé à rattraper peut-être ce qu'à l'époque j'arrivais pas à bien attraper, à bien voir. En le prenant de l'extérieur, ça m'a permis de réaliser tout ce qu'il y avait là-dedans.
Qu'est-ce que c'est cette chose qui a attrapé?
Parce que c'est pas... Bon, bien sûr, le travail a évolué. Mais pour moi, à l'époque... Bon, il y avait quelque chose que j'aimais beaucoup chez Pina, dans ce qu'elle faisait. Et quand on a commencé, c'était beaucoup plus dansé. Elle n'avait pas encore vraiment commencé cette évolution vers le théâtre, entre guillemets.
Oui, il y a d'ailleurs des choses qu'elle reprend en ce moment et qu'on va voir à Paris, comme le Sacre du Printemps, notamment.
Oui, mais ça, le Sacre, elle ne l'a jamais vraiment abandonné. Le Sacre, c'est une des pièces, je crois, qui a été la plus jouée depuis sa création. Parce que ça a été beaucoup dansé ici et ça a été toujours régulièrement demandé en tournée. C'était un spectacle Stravinsky. Il y avait trois différentes pièces, je crois. Il y avait le cantate, ce qu'elle avait appelé le Zweite Frühling. C'était un assemblage de plusieurs différentes petites compositions de Stravinsky, qu'elle avait appelé le Deuxième Printemps. Et puis le Sacre, c'était la pièce à laquelle elle était le plus attachée. On a continué à faire le Deuxième Printemps quelque temps, et puis après elle l'a laissé de côté, elle l'a plus repris.
Mais vous étiez dans le sacre
Non, moi non. Ça a été justement fait là, pendant ma première escapade. J'ai pas participé à la création du sacre.
Autre pièce très dansée et qui est aussi très souvent reprise, du moins il me semble, c'est Blaubart, oui. Barbe Bleue.
Oui, oui.
Ça, c'est une pièce à laquelle vous avez complètement participé.
Non plus. C'est atroce parce qu'il y a plein de pièces splendides comme ça. Enfin, c'est atroce, non, parce que
bon, je l'ai
fait maintenant et avec beaucoup de plaisir. Enfin, je les aime beaucoup, mais. Je veux dire, c'est le côté un peu, comment on appelle ça, le côté un peu triste de mes escapades, c'est que j'ai pas participé à toutes ces, à la majeure partie des pièces qu'on donne en ce moment d'ailleurs, parce que ça a été fait juste au moment où, et c'est quand même des pièces importantes dans le développement, enfin dans l'évolution du travail de Pina.
Oui. Mais bon, c'est comme ça. Mais là, justement, ce que vous disiez tout à l'heure sur ce que vous aviez vu à l'extérieur, alors prenons l'exemple de Barbe Bleue.
C'est une des rares pièces que j'ai pas vues avant de rentrer dedans, avant de les apprendre. Voilà. Pour moi, c'était de toute façon de faire Barbe Bleue. Quand j'ai commencé à faire Barbe Bleue, j'avais pas repris encore le rôle de Yann. Je faisais une autre place. Et pour moi, c'était une des plus. Je crois que c'était la première pièce que j'ai refait en revenant chez Pina. C'était une des plus fortes expériences que j'ai eues. Bon, mis à part toutes celles qui se sont succédées. Mais c'était à l'époque une des plus fortes expériences, malgré toutes les choses que j'avais déjà fait avec Pina, pour moi, en scène. C'était quelque chose de vraiment. Oui, puis ça m'a vraiment ouvert sur ce vers quoi allait Pina, ce dont elle parle, sur les choses importantes dont on a envie de parler, quoi, ce qu'on montre.
Que dans Barbe Bleue, le rapport homme-femme est, je crois que c'est là où il est le plus clairement montré dans toute sa fragilité.
Mais pour moi, c'est pas seulement le rapport homme-femme. Bon, le rapport homme-femme, il est là, évidemment, évident. Mais ce qui est aussi, je trouve, fantastique, c'est qu'à travers ça, c'est aussi vraiment le rapport de comme un boomerang de soi à soi. Enfin, je veux dire, il y a le rapport homme-femme, mais c'est le que ça soit Judith ou Barbe Bleue, c'est quelque chose qui se retourne toujours contre eux-mêmes. C'est pas seulement quelque chose contre Barbe Bleue contre Judith ou Judith contre Barbe Bleue, mais c'est aussi Barbe Bleue contre Barbe Bleue, Judith contre Judith. Et ça je trouve assez incroyable aussi dans cette pièce, cette espèce de recherche, de combat et d'espèce de perte de soi-même. Et c'est assez fantastique, je trouve.
Dans le programme qu'elle a composé, il y a une pièce qui est.
Pour Paris.
Oui. Ouais. Il y a Valseur,
oui.
Qui est une pièce assez récente et qui est une pièce vraiment très dure, enfin, très, très grinçante, disons, avec beaucoup de choses qui sont larguées dedans. Enfin, bon. Et on se disait déjà il y a 2 ans avec ma sœur qu'on se demandait comment elle pouvait aller plus loin dans ce sens-là. On se demande là où elle pourrait aller plus loin. Donc à chaque fois, on se dit ça.
ça paraît idiot, mais on a été aussi. Je dois reconnaître que j'ai eu un moment de scepticisme un petit peu avant vers la période de fin de répétition, avant la première. Et puis finalement, je me suis rendu compte que c'était quelque chose d'assez fantastique, justement dans le fait où elle a, je ne sais pas ce que ça veut dire, aller plus loin, aller moins loin, mais c'est comme s'il y avait moins de choses pour dire autant, sinon plus. Je crois que c'est dans ce sens-là qu'on dit qu'elle est allée plus loin. Parce qu'il y a. Il y a de fortes choses, mais il y a moins de. Bon, il y a quelques moments dans la pièce où il y a beaucoup d'action, mais en général, dans tout le long de la pièce, c'est plus épuré d'une certaine manière. Enfin, pas épuré dans le sens esthétique, ou. C'est plus pur comme si on disait moins de mots pour dire plus de choses. Quand on observe un peu le travail de Pina, quand on la connaît un petit peu, bon, on s'aperçoit que c'est quelqu'un qui est préoccupé par plein de choses, par plein de problèmes qui nous concernent tous les uns autant que les autres. Et que c'est quelqu'un qui cherche, qui se pose, qui pose toujours des questions. Et je pense que bon, quelqu'un comme ça, c'est un peu évident. qu'il évolue dans son travail sans se donner vraiment... Je ne pense pas qu'elle s'est dit, bon, cette fois-ci, je vais essayer autre chose. C'est simplement un besoin qu'elle a écouté, je pense. Parce que déjà, dans les pièces qui étaient dansées, c'était... Bon, même si, par exemple, le sax, c'est de la danse pure, il y a quelque chose... Il y a une couleur qui fait deviner qu'elle a d'autres... Enfin, qu'elle le voit peut-être un peu différemment que simplement quelque chose de purement esthétique. Je crois que c'est ce qui fait aussi sa grande valeur, qu'elle est à l'écoute et au service de ses besoins, des questions qu'elle se pose et de... sans cesse envie de... Même si des fois on a l'impression de tourner un petit peu en rond, parce qu'évidemment quand on travaille tous ensemble comme ça, toujours on se dit bon, on a déjà travaillé là-dessus, mais on s'aperçoit vite que c'est peut-être simplement qu'il y a d'autres manières de le prendre, qu'il y a toujours un moyen différent de poser cette question ou de réfléchir à certains problèmes, bien que j'aime pas beaucoup ce mot, mais je crois que c'est un peu évident. Je pense pas qu'elle a décidé un jour, bon, je vais essayer autre chose. Ça s'est fait comme ça, je pense.
Mais vous, finalement, ce que vous appelez vos escapades, est-ce que s'il y a le besoin, non seulement de prendre le recul par rapport à un hiver très fort qui vous implique beaucoup, etc., mais est-ce qu'il y a aussi, par rapport à l'univers de la danse partout dans le monde, ailleurs, etc., est-ce qu'il y a une curiosité qui, de temps en temps...
Enfin, en ce qui me concerne, à l'époque, c'était plusieurs choses. Au bout d'un certain temps, j'ai eu du mal à m'insérer au groupe, avec tout ce que ça peut comporter de petits problèmes, je crois, avant d'arriver à ce que le groupe est comme il est maintenant, ça a mis beaucoup de temps. Et au début, il y avait plein de problèmes qui étaient dus peut-être à la personnalité de chacun de toute façon, et aussi à peut-être au manque de préparation par rapport à ce qu'attendait Pina de nous, ou à ce qu'elle voulait de nous. Donc il y avait plein de désaccords, de malentendus qui ont fait que j'ai eu envie de partir. Ça a été un point. Et le deuxième point, ça a été aussi tout bêtement que jusque-là, j'avais jamais eu l'occasion d'être sans travail, aussi bête que ça puisse paraître. Et j'avais envie d'être un moment comme ça, de voir ce qui se passait sans avoir vraiment un contrat, de prendre des cours, d'aller voir des spectacles, de prendre mon temps.
Il y a une chose évidente, c'est que quand on est dans la compagnie de Pina Bausch, on découvre ce que c'est que le travail, si tant est qu'on ne l'avait pas déjà découvert avant. J'ai l'impression que c'est vraiment... Enfin, on travaille vraiment beaucoup, beaucoup
tout
ça.
Oui, tout le temps.
Fais-le-toi, dis-toi. Mais non, j'ai rien montré, non. Fais-le-toi, mais laissez-moi tranquille. Non, mais non. Non, non.
Je voulais seulement dire, c'est magnifique que vous soyez tous là ce soir.
Vous voulez voir quelque chose? Mais vous allez voir! Sortez-moi ces chaises! Sortez-moi ces chaises! Take the chairs away! Sortez-moi tous ces cartons! Qu'est-ce que vous voulez voir? Vous voulez voir ma neige? Sortez-moi ces chaises! Vous voulez m'emmener? J'arrive! Voilà, ici! Là! 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 Et qu'est-ce que vous voulez voir encore? Tournez! J'arrive en France! Je sais faire aussi! Et ici! Tournez! Là! Qu'est-ce que vous voulez voir donc?
Anne Martin, chercher.
Quand j'ai vu la compagnie d'abord, j'étais dans ma première compagnie, le premier théâtre où j'avais commencé avec Gigi Casciuliano à Nancy. Et c'était en 78. C'était au mois de mai, la compagnie était venue pour le festival de théâtre à Nancy. Et j'avais fait une saison avec Gigi. Et ils sont venus là pour jouer Brecht, les Sept péchés capitaux et Sacre. Et quand j'ai vu ça... C'était comme... c'était un gros choc, bien sûr, mais c'était comme voir... Quand on cherche quelque chose, mais on ne sait pas exactement quoi, et puis voilà, c'était là. Et je savais que c'était ça. Mais bon. Et je suis pas allée tout de suite dans la compagnie, une année après. Et voilà. Ça fait 6 ans maintenant.
Vous avez participé à presque toutes les grandes pièces qu'on connaît maintenant en France, depuis, enfin presque toutes. Et quelles sont celles qui sont les plus importantes pour vous ?
Bon, je crois la plus importante, c'est 1980. Je crois que c'est celle-là.
Et parce que pour le travail que vous y faites, en particulier, pour, et pour ce que vous y avez apporté dans cette pièce ?
Oui, et aussi pour tout ce qu'elle représente. Aussi pour moi, pour ce que c'était à l'époque aussi, parce que Rolf, qui était l'ami de Pina, elle venait de mourir. Et comment toute la création s'est passée aussi pour tout ce qu'elle représente, pour toute la vie qu'il y a dedans. C'est disons, la pièce qui me tient le plus à cœur. Mais donc, quand même, dans toutes les pièces, il y a quelque chose qui est... Bon, c'est sûr, il y en a que j'aime un peu moins. Mais dans toutes, il y a quelque chose qui... Elles sont toutes très différentes quand même, toutes les pièces.
Mais Bande de Néon est aussi une pièce, grosso modo, de la même époque et de la même veine, si je puis dire.
Oui, c'est une pièce que j'aime aussi beaucoup. Mais bon, l'autre, mais encore plus près du cœur, si on peut dire. Bande de Néon, oui, pourquoi vous parlez de Bande de Néon ? C'est aussi une pièce que j'aime beaucoup. Gebirge, c'est aussi une pièce que j'aime beaucoup. Qui était
ça, c'est l'avant-dernière création, enfin, c'est le tout récent, là. C'est...
Oui. Pour moi, dans chaque pièce, ça a été encore un petit peu plus loin dans, je sais pas, dans le chemin qu'on a avec la compagnie. Et il y a quelque chose de très fort dans le dépouillement.
Et dans Nelken, vous avez une participation là encore très importante. Comment vous avez travaillé sur cette pièce-là ?
C'est-à-dire que on est tous là avec nos questions et chacun répond comme avec ce qu'il a. Nelken, c'est encore autre chose parce que je crois, pour moi d'abord, c'était la première pièce que je refaisais après un temps où j'avais été malade, où j'avais été un peu en dehors. Et puis, pour tout le monde, ça a été aussi une pièce, c'était un temps de création assez confus. C'était très dur. Et je crois que le résultat le montre aussi un peu. C'est très violent dans tous les sens. Et pour moi, toutes les deux, la dernière, j'ai choisi de ne pas la faire. J'avais besoin de faire autre chose un peu. Mais je l'ai vue et pour moi, ça a été vraiment encore plus loin.
Et justement, vous dites que vous aviez besoin de faire autre chose. Vous créez maintenant, vous-même, vos propres spectacles. Alors, vous travaillez...
Oui, enfin, j'avais commencé à faire des improvisations avec des musiciens de jazz. C'était une chose qui était importante aussi pour de voir, parce qu'on fait tellement dans les spectacles, chacun fait tellement ces choses, des choses qu'on vit comme ça, et je voulais voir ce que je pouvais faire avec du mouvement seulement, voir jusqu'où ça pouvait aller, et d'essayer de trouver vraiment qu'est-ce qui vient. C'était un peu comme plonger dans de l'eau froide, de se mettre dans une situation comme ça où on ne sait absolument pas ce qui va se passer et de voir qu'est-ce qui vient sans que ce soit dans un langage qu'on connaît, donné, ou qu'est-ce qui se passe des fois, par exemple, quand on chante aussi, qu'est-ce qui se passe peut-être plus facilement que ça. Pas plus facilement, mais... si, quand même, plus facilement avec la voix, ça peut se passer quand on chantonne comme ça. Et j'avais besoin de faire une chose comme ça où je me mettais dans une position de déséquilibre total.
C'est quelque chose qui va exister, qui est un spectacle qui va exister en tant que tel. C'est un spectacle d'Anne Martin, non ?
Non, c'est un trio qu'on a. Il y a deux contrebasses et moi. Et on a choisi d'être vraiment un trio. Et de chaque fois, enfin, comme ça existe jusqu'à maintenant, c'est que chaque fois, on se met dans une situation où personne ne sait ce qui va se passer. Mais bon, chaque fois, c'est des scènes différentes, c'est des lieux différents, et il y a chaque fois quelque chose qui fait qu'on va un petit peu plus loin aussi, chaque fois. Et ça fait très peur. Ça fait chaque fois plus peur.
Plus peur que travailler sur l'imprévu Pina Bausch ?
oh, c'est tellement différent. Je peux pas le comparer. C'est-à-dire que quand on cherche avec Pina, c'est toujours sur une durée très longue. De la durée d'une création, ça dure au moins 6 semaines et jusqu'à plus de 2 mois. Donc c'est un processus très long de recherche. Même si les impros qu'on fait, c'est, enfin, j'appelle ça des impros, c'est pas vraiment le nom, mais même si ce qu'on fait, ça vient sur le moment quand même. Mais là, c'est juste une chose de l'instant. Et c'est pour ça que j'aurais pas vraiment envie de le structurer en spectacle. J'ai envie que ça reste comme ça, que ce soit des instants.
Donc pour le moment, il vous faut les deux, c'est-à-dire continuer à travailler avec Pina Bausch et faire ce type de recherche-là pour vous, avec d'autres gens.
Oui, mais ce temps-là que j'ai pris de la création, c'était parce que c'était le seul temps qui était vraiment possible de prendre. Il fallait prendre un temps comme ça, sinon il y a toujours des tournées, des spectacles à faire. Et pendant ce temps-là, sur tout ce que j'ai fait, il y a eu des concerts, comme ça. Mais comme c'est aussi dépendant des musiciens qui ont aussi d'autres choses à faire. J'ai fait aussi du trapèze, parce que j'avais envie de faire ça depuis longtemps, et puis pourquoi pas, puisque j'avais le temps.
Les déboulés ! Vous savez ce que c'est ? Je sais, c'est leur style. Sortez-moi de ces cartons ! Ici, déboulés ! Là ! Déboulés ! Là ! Voilà ! Qu'est-ce que vous voulez voir d'autre ? Est-ce que vous voulez voir quelque chose d'autre ? N'importe quoi, je vous le fais ! Ici, quand je t'ai ! Et ça, et jetez ! Qu'est-ce que vous voulez pour nous ? Sortez-moi tous ces cartons ! On te chassis ? Ok. Et alors ? On te chassis. Voilà. Ici. Qu'est-ce que vous voulez pour nous ? Qu'est-ce que vous voulez pour nous ? Qu'est-ce qu'il faut que je montre ?
Lutz Forster, partir, vit actuellement à New York.
Quand j'ai commencé de danser, j'ai toujours voulu danser avec la compagnie Rosie Livre. C'était déjà depuis des 15 ans, je ne sais pas. Quand j'ai vu le film de la Mourse Pavane, j'ai voulu danser cette pièce. Et alors, il y a 4 ans, j'ai reçu une bourse pour étudier en Amérique. J'ai travaillé avec la compagnie. Et depuis ce temps-là, j'ai fait des tournées avec eux, entre-temps, quand j'ai eu le temps avec Pina. Il y a un an, ils m'ont demandé si j'ai envie d'être le directeur associé, parce qu'ils voulaient aussi un échange entre la technique qui vient des rives de Rios et celle de Limon. Et ils m'ont demandé si j'ai envie d'organiser tout ça. Et j'ai dit oui. Et aussi, j'aime vivre à New York. Et il faut changer de temps en temps.
Et vous étiez dans la compagnie depuis la formation, dans la compagnie de Pina?
Non, non. Depuis, la première pièce que j'ai lancée, c'était Le Sacre, c'était en 1975.
C'est-à-dire 2 ans après.
Mais pendant ce temps-là, j'étais encore à l'école, à Essen. J'ai seulement fait Le Sacre et j'étais un membre de la compagnie depuis 1978.
Mais quand même, prendre cette fois la décision de partir complètement, même en gardant un rapport affectif que vous avez pu voir, enfin, très fort, bon, c'est quand même une très grande décision à prendre. Ça a quand même été, j'imagine, difficile.
Mais j'ai dit, c'est pas provisoirement, mais c'est non plus complètement. Alors, on verra. Je suis sûr, un jour, on va travailler ensemble. Mais au moment, je pense que je dois faire autre chose. Et en plus, j'enseigne à New York et j'ai fait des répétitions et tout ça. Je dois faire aussi beaucoup de choses d'organisation et tout ça. Et c'est quelque chose qui m'intéresse aussi. Et c'est autre chose de seulement être sur scène.
Mais par rapport à la compagnie Limone et aussi bien par rapport à New York, enfin, je veux dire, vous représentez à la fois quelqu'un dans la lignée de Curtios, mais aussi le fait d'avoir appartenu un certain nombre d'années à la compagnie de Pina. Comment êtes-vous perçu à New York à travers cette double appartenance?
Je ne sais pas. Alors, non, à l'autre côté, la technique que j'ai appris à l'école avec Jean Sebran, c'est il y a beaucoup de ressemblances entre Limone et Yos. Et aussi, c'est un certain, l'idée, l'esprit qui est commun. Il y a des ressemblances. Mais en plus, on fait des choses, des jeunes chorégraphes. Suzanne Link va faire une pièce pour la compagnie. Probablement, peut-être, oui.
Pas bientôt.
Pas bientôt.
Je veux dire quand même, l'image de Pina Bausch à New York, qu'est-ce que c'est? Alors, comment vous la... Est-ce que, à travers vous, je veux dire, comment elle est perçue? À travers vous ou en dehors de vous? Je veux dire, comment vous voyez? Parce que, par exemple, la compagnie est allée à New York l'an dernier. Je crois que c'était un succès, non? Ça a été bien reçu, non?
Oui, je crois que c'était un grand succès, mais c'était aussi un choc. Mais un choc très nécessaire, je crois, pour les Américains, pour le théâtre et pour la danse en Amérique, parce que c'est un peu arrêté à New York.
En fait, vos raisons, est-ce que c'est le même type de raison, c'est-à-dire quand même le besoin à un certain moment de l'expérience de la compagnie Pina Bausch, est-ce que c'est le même type de raison que de départ d'autres anciens qui faisaient quand même figure de pilier, comme aussi Mechthild Grossman ou Meryl Tankard? Est-ce que chacun a des raisons différentes de partir et est-ce qu'il n'y a pas quand même une difficulté commune à partir aussi?
Non, je ne crois pas. Je crois que les raisons sont très différentes. Je ne vais pas parler des raisons d'autres parce que ce que je sais, alors c'est peut-être c'est pas vraiment les raisons pourquoi ils sont partis. Mais oui, on découvre en travaillant avec Pina ce qu'on veut vraiment peut-être. Et à un certain point, on ne peut pas le faire ici, alors on s'en va. Mais c'est jamais une décision facile.
Vous avez toujours besoin de revenir un petit peu aussi. Je veux dire, revenir même les voir. Enfin, je veux dire qu'il y a quand même un côté tribu, un côté famille.
Oui, bien sûr, parce qu'une pièce comme 1980, c'est une partie de moi. Alors, c'est comme un enfant. Et de temps en temps, il faut voir ses enfants. C'est pas quelque chose qu'on veut laisser tomber, parce que c'est une part de mon histoire.
C'est-à-dire qu'il y aurait, d'après ce que vous dites, il y aurait une différence entre, une différence notable, je veux dire, une différence sensible, entre la partie affective qui peut toujours y avoir à appartenir à une compagnie de toute façon, une compagnie où il se passe des choses, et puis le fait quand on participe aux créations de Pina, on y participe d'une manière plus active en fait, plus importante, et que donc on est beaucoup plus impliqué.
Non, alors j'ai commencé de danser professionnellement assez tard, j'étais 21 ans, et alors j'ai dansé comme amateur, mais j'ai étudié à l'université de Hambourg, et danser c'était quelque chose qu'on faisait à part, mais pas professionnellement. Et quand je me suis décidé de danser pour gagner ma vie, j'ai toujours voulu faire quelque chose qui pourrait être important pour moi. Alors, quand j'ai vu le premier spectacle de Pina, j'ai dit, ça c'est ce que tu veux faire. Oui, alors c'est une chose. Alors, à l'autre côté, si on doit toujours donner quelque chose de soi-même, ça pose aussi des difficultés parce qu'on n'est pas toujours dans le sentiment près d'aller tout au fond. Et aussi, après un certain temps, on pense qu'on n'a plus rien d'offrir. On a le sentiment de... Oui, qu'on a déjà tout dit, ce qui n'est pas vrai. Mais aussi, c'est la raison pourquoi je suis allé... j'ai accepté cette bourse pour aller en Amérique, parce que j'ai eu le sentiment de... Je dois vivre un peu avant de parler sur la vie. Oui, et aussi à Wuppertal, c'est une petite ville, et on travaille tout le temps ensemble. On n'a pas beaucoup de possibilités de faire d'autres choses. On est tourné, c'est toujours le travail. Et après un certain temps, j'ai eu le sentiment que c'est un peu... la vie est un peu artificielle pour moi. Je ne veux pas dire que la compagnie, mais seulement la vie quotidienne.
Jacques Patarozzi, chorégraphe français, ancien du Tanztheater, ne manque jamais une nouvelle création de Pina Bausch.
À partir de Renate, c'était déjà un petit peu avant, je crois, mais je connais des opéras qu'elle a fait avant. Je connais pas toutes les pièces, comme Schlag, comme d'autres pièces que je connais pas toutes, mais je les ai vues en vidéo, etc. Mais je connais. Mais moi, je suis arrivé. Enfin, c'est pas moi qui ai provoqué ça. Hein, je suis arrivé au moment où il y avait ce changement-là. Donc, j'ai vécu Renate, qui était moi j'appelle ça un petit peu comme une grande poubelle énorme, mais d'où elle en sort des choses fantastiques. Mais c'est vraiment, c'était beaucoup plus le foutoir, quoi. Avant, c'était beaucoup plus, elle était beaucoup plus stricte avant dans toutes ces pièces que j'ai vu faire. Elle faisait d'abord beaucoup plus de pas, et des pas fantastiques. Mais il y avait une organisation du temps et de l'espace, et de ce qui s'y faisait. Maintenant, c'est presque comme plein de petits éclatements, et plein de petites brimes, et tout ça fait un tout. Ce que j'ai vécu pendant ces 3 mois de création, d'abord, c'est un long temps. Et puis ensuite, je suis sûr que ça commence toujours avec, quand il y a 24 danseurs, il y a une humiliation énorme, parce que tout le monde veut montrer le bout de lui-même qu'il croit bien, bon, etc., etc. Et pendant 15 jours, il y a une humiliation, et après, c'est pas une catastrophe, mais tout le monde descend à ras des pâquerettes, et là, on commence à travailler. Et là, bon, c'est une longue endurance. Je trouve que Pina a une force colossale d'endurance. Elle peut attendre avec une patience, une attente et un regard que j'ai vu peu de gens avoir autant d'endurance que ça. Parce que son regard pèse beaucoup et compte beaucoup. Même s'il est tout à fait... Enfin, il n'est pas léger, il est juste là. Mais il y a une grande, grande attente. Elle attend tant que le voyage entre elle et moi ou un autre danseur ne s'est pas fait. Et ça, c'est pas... Ben, tant pis. Hein. Mais... et je crois qu'il fallait, enfin pour moi en tout cas ce que j'ai senti, c'est qu'il fallait beaucoup s'accrocher. Enfin, il fallait être là tout le temps et s'accrocher beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors on le fait spontanément, on ne sait pas ce qui sort. Et puis après on s'aperçoit qu'on tient sur scène. Enfin moi je sais que je me souviens encore de l'écho que je pouvais avoir au moins une heure. Il y a 3 heures de spectacle ou 3 heures et demie. Il y avait une heure entière où je savais où j'étais. Mmh. Et puis après j'avais des petits bouts que je perdais encore. Et puis ensuite quelques points encore que je savais que j'avais senti que j'installais dans le temps, quoi. Mmh. Dans la pièce. Mmh.
Mais Vous l'avez revue, Renate Kant, mm-hmm. Et mm-hmm. Quelle impression justement en avez-vous maintenant?
C'est que pour moi, ça a été un plaisir, parce que ça m'a rappelé, bien sûr, en dehors de voir la pièce, ça m'a rappelé tout ce que j'y ai vécu. et tout ce que j'y ai senti avec les gens, avec les toutes, et j'ai pu voir cette chose, pourquoi elles étaient là, enfin toutes les actions que chacun mettait, ou comment il cautionnait une autre personne, ou comment il était en colère après quelqu'un d'autre, ou comment il protégeait sa femme du regard des autres danseurs, ou comment pour embêter Jan Minarek, moi je restais sur un truc et je n'ai un bouquet de fleurs. Mais c'était finalement comme une espèce de bataille, comme une bataille de gens pour, non pas pour des places, mais pour ça venait, enfin pour moi ça venait, l'existence, c'est aussi de vraiment dire, quand je regardais par exemple Dominique danser, ben je le cautionnais obligatoirement, donc dans la pièce c'est un moment que moi trouvais très très beau, quand il venait se coucher sur moi, ou quand j'ouvrais les bras, qu'il se mettait il s'approchait, et quand il faisait des choses, ou quand Manu faisait des choses, ou Elena ou Dena, on cautionnait parce que mon regard était positif envers ces choses là
Oui, mais alors justement, est-ce que ça pose pas aussi le problème des reprises, c'est-à-dire, c'est quand même ces pièces-là, elles sont construites sur la matière vive des danseurs, des gens de la compagnie, et elles constituent au moment où elles sont reprises peut-être une espèce d'écho un peu assourdi de ce qu'elles étaient. Est-ce que c'est pas quand même un problème spécifique justement aux pièces d'Opinard ?
En même temps, c'est faux. C'est-à-dire que c'est vrai dans le sens où c'est vrai qu'il y a un petit décalage que peut-être moi je peux voir. Alors je sais pas si tout le monde le voit, évidemment. Pour une personne qui vient la première fois, je sais pas s'il le voit ça. Et que je crois que les pièces, enfin, j'ai vu beaucoup de pièces être apprises par différentes personnes. Donc il y a un relais, parce qu'on ne pourrait pas faire ça. Moi, je ne pourrais pas, parce que je n'ai personne qui relaye. Mais dans 24 personnes, il y a toujours des personnes qui restent. Donc il y a toujours un groupuscule qui retient certaines choses, et les autres grèvent dessus. Et comme les pièces, quand même, on pourrait dire, sont assez fortes, ça tient. Mais disons que Barbe Bleue, c'est une pièce que j'ai beaucoup, beaucoup aimé y regarder et faire. Ça, c'est la chose la plus forte, je dirais, ou humaine. Enfin, pour moi, de vivre sur scène, c'était en même temps dur. On pouvait y mettre beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on a une grande liberté enfin, on n'a pas de liberté dans la structure, mais de ce qu'on peut y mettre de soi, et toutes les douleurs, ou toutes les, on peut jeter sur les murs, quoi. Alors, on peut le faire, et c'est ça qui est intéressant, on peut le faire de différentes façons. C'est-à-dire que je l'ai fait comme je l'ai dansé là-bas quand j'y étais, puis j'étais en tournée avec eux parce que des danseurs avaient des problèmes. Et je me souviens que je l'avais dansé en Australie, et que je pouvais la faire avec toute la violence que j'avais, si j'avais des problèmes en moi, des choses comme ça. On peut même pleurer sur scène, parce qu'il y a un monde qui est fait pour ça, donc on peut ou le faire en faux, ou le faire en vrai. Et puis...
Et ça donc, soulage de le faire en vrai ?
Oui, bien sûr, évidemment, ça sert à ça aussi. Mais disons que je veux dire par là que même si on l'a fait de différentes façons, elle tient quand même. Après, bien sûr, j'ai aimé faire Sacre, mais c'est un tueur, si on peut dire, quoi, physiquement. Oui. Mais c'est aussi quelque chose de très très beau.
Oui.
Et je l'ai vu aussi danser par Marlise qui l'avait créé. C'était un tout petit peu de bonne femme qui à la fin, c'était comme un sacrifice. Quand elle tombe, c'est un peu, elle nous satisfaisait vraiment. C'est qu'en même temps, on cautionnait le sacrifice. Et en même temps, on avait envie qu'elle aille jusqu'au bout. Je pense que c'est en même temps terrible, en même temps fantastique. Et elle se jette, elle nous satisfaisait. Et dans la salle, je l'ai vu aussi, je trouvais ça extraordinaire, enfin fantastique, quoi. Ça a donné de la vie incroyable. Et j'ai vu les gens travailler, là, on peut rendre une chose très très belle comme on peut la détruire, mais c'est soi-même qui le faisons. Après, les gens se plaignent, ils disent Pinel fait danser dans l'eau, dans la terre, dans tout ça, c'est quand ça va pas bien. Quand ils vont bien, ils sont ravis de faire tout ça. Et là, je viens de voir la nouvelle pièce de Pina, et j'ai vu Elena Picon qui travaille avec moi, qui travaille avec la main, qui était une jeune femme, mais qui devient de plus en plus fantastique, et on savait qu'elle était quelque chose de très très beau chez Elena, et cette fois-ci, elle l'a montré. C'est-à-dire qu'elle a montré. Et, enfin, après, on pourrait parler de la pièce.
Et le thème de cette nouvelle pièce, oui, c'est.
Alors, le thème, je sais un petit peu l'histoire, comment ça a commencé. Hein. C'est-à-dire que c'est un peu surprenant parce que le décor est tout propre, c'est assez rare chez Pina que le décor est tout propre. Mais elle voulait partir un petit peu sur une base, elle voulait choisir les gens elle-même avec qui elle voulait vraiment travailler.
Et son titre et son thème ?
Non, il n'y a pas de titre. Si le thème, on ne pourrait pas en dire un, c'est encore la même chose. Enfin, c'est beaucoup basé encore sur Hélène, mais sur la multiplicité encore des gens, de chaque. Bon, Hélène, il y a une espèce de sensibilité merveilleuse qui se dégage et qui était sous-jacente, enfin, qui était là, évidemment. Mais ce qu'elle a fait, c'est que Pina et elle-même avaient envie, à ce moment-là, de sortir. Elle l'a sortie. Dominique a encore fait des choses, merci, a encore fait des choses très, très belles, mais encore un peu plus folles que d'habitude et différentes que d'habitude. C'est-à-dire qu'il a fait un pas sur lui, il a eu une très bonne relation dans cette pièce avec Pina. Et c'est tout blanc, Il y a trois, comme trois vitrines avec, en face, face à la scène, quand on la regarde, il y a un oasis, enfin comme la jungle. De l'autre côté, il y a des bacs avec des poissons rouges dedans. Et sur le côté droit, il y a comme un petit désert, quoi. Et tout ça est tout surélevé, et à la fin, tout ça descend. Il y a une chose très très belle, je trouvais que moi, apprendre à parler, c'est-à-dire qu'un homme, c'est Yann qui vient, qui prend un gros coussin, qui se met sur le mur, et qui est un peu torse nu, et qui a un peu les jambes nues, il a un drap sur lui. Et il prend une bombe, au début on ne s'aperçoit pas qu'il est en train de se peindre en blanc. Et finalement il se peint les bras, puis la poitrine, puis le visage, et il disparaît dans le mur. Il est là, mais il disparaît, c'est comme s'il retirait. Pour des gens c'était terrible, quand tout s'est fermé, c'était terrible, et pour moi c'était fantastique. Ça me donne du courage. J'aimerais dire ça parce que c'est en même temps terrible, et c'est en même temps ce que je sais, et ce que... Est-ce que quelque part je sens que c'est vrai? Si quelqu'un me le dit, ça me fait du bien pour continuer. Et si quelqu'un me dirait c'est plus rose que ça, je serais pas sûr. Je préfère partir d'un point de vue, pas toujours, hein, mais il y a de la place pour tout. Mais des fois, quand quelqu'un me donne, comme Perros, ou comme quelqu'un me donne du courage parce qu'il dit il y a rien. Mais quand on dit il y a rien, ça veut pas dire qu'on peut rien faire. C'est quand il y a rien, ça commence qu'on peut faire des petites choses. Ça peut faire du bien de danser, de lever un bras, de parler, de faire quelque chose.
Est-ce qu'il y a une influence réelle de Pina Bausch sur les jeunes chorégraphes français, ou au contraire, est-ce que c'est une espèce de tarte à la crème? Un petit peu...
Je crois, bon, par rapport à la danse française, je crois qu'en, de toute façon, je crois que ça en a une, mais plutôt dans un esprit. Une fois qu'on a vu ça, on peut pas, il y a des choses qu'on peut pas faire, enfin, qu'on peut faire, évidemment, les gens, chacun à son temps et son âge, enfin, ou sa maturité, mais disons qu'il y a on peut plus, après, oublier, quelque chose s'est passé, vraiment. Maintenant, je crois qu'il y a pas beaucoup de traces de ça, réellement, hein, je la vois pas beaucoup. C'est-à-dire que même, bon, on pourrait peut-être se dire, non, j'en ai aucun que je peux voir, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun chorégraphe français que je peux voir dans ce sens-là. Et je sais pas si c'est un bien ou un mal, je m'en fous un peu. Je crois que c'est, de toute façon, c'est plus loin que ça. C'est-à-dire que maintenant, bon, il y a la nouvelle danse française qu'on appelle comme ça, enfin, avec... Enfin, je ne parlerai pas trop de ça, mais...
Ne serait-ce que par rapport à l'influence américaine, qui a été réelle, qu'est-ce que vous pensez de...
Oui. Mais c'est une connotation, c'est-à-dire que le Pina, on ne peut pas la prendre comme ça, la connoter. C'est-à-dire, Meurs Cunningham, on en fait une grande soupe, et tout le monde y va, et tout le monde fait les pas, et tout le monde... Et je ne veux pas dire des choses négatives vis-à-vis de ça, hein, c'est-à-dire que chacun se nourrit comme il veut. Mais Pina, c'est difficile, parce que c'est quand même, c'est pas une technique. Alors, c'est difficile de la choper. C'est difficile de l'apprendre et de la dire, bon, on va le faire comme Pina. Alors, évidemment, quelques petits groupes ont essayé de faire des petits trucs. On l'a vu très, très vite. Et puis, on l'a dit, bon, c'est pas la peine. Ça n'a servi à rien.
Je sais pas si l'influence est ailleurs.
Ça, oui, quand même. Oui. Je crois que, de toute façon, elle a montré des choses. Mais, sur tout le monde, je crois que les acteurs, même les gens du cinéma, même les écrivains, pas beaucoup de gens sont venus voir Pina. Donc, elle a ouvert beaucoup le champ de la danse. Je crois qu'elle lui a donné beaucoup.
Danse et performance, les deux sortes de discours font corps au plein sens du terme. Danse, performance, crise, cri, coup, choc, rides expiatoires, ou plutôt évacuateurs, caresses, plaintes, étreintes silencieuses. Tout, y compris la franche rigolade, le cabaret souvent lourd ou grinçant, hérité d'une tradition pas toujours bien perçue par nos filles d'une sensibilité cartésienne. Le prosaïque, le dérisoire, le cruel goguenard, le violent espiègle, la peur, le besoin d'amour, le manque d'amour, tout, vague, flux et reflux, fond et forme, tout est déjà là. Le corps et la tête comme matière première et comme outil. Jambes, dents, mains, dos, derrière, souvenirs, frustrations, désirs. Tout ce qui appartient à ces danseurs est investi. Pour attraper, battre, bouger, sauter, résister, rebondir, rire ou pleurer, et quelquefois même mordre. Pina Bausch.
Oh, I think we try to do many things, and we did Sacre again, we do Bluebeard again, we do Come Dance With Me again, and so this one we couldn't take so easy because it has to do something with casting, and the stage was burned once, the mountains, so we couldn't do it, so... So we did it because we like to keep the whole repertory. So we did that too.
The dancer says it's a very peculiar piece. It's very special, this one.
Well, special maybe in a way because it's the style is different. It's a operetta.
Yeah.
No, it's a candy or something.
And,
so.
What did you mean when you called it operetta? What is it like? Since I haven't seen it yet.
It's operetta, but it's not operetta, but it's operetta by Pina Bausch. It's different. Well, sometimes it's very difficult. It takes some time till somebody is really right in it. But that happened with many pieces we did. Sometimes you already saw the third cast, I'm sure. That you, and sometimes you always miss the original person, but sometimes it's also that it's better now than before.
How do you see the girl dancing what you were in?
Well, I'm doing it too. I'm doing it.
You're doing it?
Yes.
In Paris?
Yeah, I only didn't do it when I had a baby, but I do it.
Je pense, nous essayons de faire beaucoup de choses. Le Sacre du Printemps, Barbe Bleue, Comme Tanze mit mir, Renate van der Haus. Renate, nous n'avons pas pu la remonter facilement, à cause de la distribution. Et puis le décor, c'est-à-dire les montagnes, avait brûlé. Nous aimons garder tout le répertoire. Renate, c'est une sorte d'opérette, une douceur, mais enfin à ma façon. Et puis, le matériel a besoin d'être renouvelé. Quelquefois, c'est très difficile. Ça prend du temps, puis ça arrive. Quelquefois même, c'est meilleur qu'au début.
Je miss Malou, of course, very much. But you never know, maybe she's going to do it. She doesn't want to dance in the moment, so... What can I do? But for me, I just think, well, maybe one day she changed her mind. What can we do?
There is something special about the company, too, that the people have a very special way of coming and coming out and coming back. And they, for instance, for Lutz at the moment, it's Lutz Förster is in Limon in New York.
Well, it's very difficult. It's very difficult. Well, it has to be somehow. So long as you cannot replace a person, so for certain pieces, it's very difficult. So you need. You hope it works. That is possible, but it's not good. Actually, so many. It's so much this and this person and this person, but. People which are very important to you and where the work was wonderful work was in the person, so I like them and I like when they come back very much. But I understand too that sometimes they need only a change, no? So
in France people criticized your cruelty.
My cruelty?
Yes.
Well, but I don't know what you mean with it.
A certain tendency in the critics in France, people are very impressed anyway. And it's not a question of success of hit, huh? But I know some people. There is a certain kind of critics about this difficulty to in your universe the way people suffer.
Well, maybe they have to have glasses. Maybe they have to see the whole thing, not only this.
Café Muller, cette fois encore, je le danserai moi-même. D'ailleurs, le seul moment où je ne l'ai pas dansé, c'est le moment où j'ai eu mon bébé. Les autres danseurs, Malou, oui, bien sûr, elle me manque beaucoup. En ce moment, elle ne veut pas danser, mais on ne sait jamais. Oui. Quelquefois, c'est très difficile de remplacer quelqu'un. La cruauté dans mon travail, je ne comprends pas ce qu'on veut dire. Les gens qui ne voient que la cruauté, ils ont besoin de lunettes. Tout ce que je fais, cela a toujours une raison. Ce n'est jamais pour rien. Je parle du monde d'aujourd'hui, Du moins, j'essaye de parler de la réalité. Ceux qui ne veulent pas la voir, ce sont ceux qui ne veulent pas avoir de problème. Ils évitent toute confrontation. Les cruautés que vous voyez, ce sont aussi peut-être vos propres fantasmes.
You don't feel really concerned by this type of reaction of the public, the way they can't stand some situations in your theater.
But it has a reason. It has a reason. It's not for nothing. And no, it has a reason why you do it. Why you show certain things? It has to that you feel something. You, the public. That you feel something, but what it's about? Why do you do it? Why? It's not just to be cruel. That's never the reason. It has a reason why.
Yeah.
That's an analyse. I think it's very difficult to do, and I cannot do it. I try to talk about certain things.
Yeah.
I try to speak about how much our people want to be loved. How much?
I'm convinced. That's not the problem. I'm convinced. Yeah.
And many more things. I speak about the world today. I try at least. And I tell you, the reality is much, much worse. It's much to find what I try so nicely on stage. That has nothing. It's very much more harder life, you know.
Yeah, that's right.
Yes.
As a matter of fact, what they see on the scene, it's often violent between girls and boys and between all the actors. It's really violent.
Give me an example, maybe then I can answer better.
In Walzer.
What is the violent in Walzer?
In Walzer or in Nelken, the way, for instance, the way, you know, they fall on the table, and the girl is keeping eating, you know. And the way the valse, the version I saw in Avignon, when they were jumping from high, you know, it was really difficult to stand it a long time, physical. You see what I mean? These kind of situations.
But what happened with your fantasy? When you, not only because you can't hold it, but that's what I want.
No.
I want that you feel that way.
No.
But why? What is it? What you see? What comes to your mind with it? With this, what you see?
En fait, dans ce que je réalise, personne ne blesse personne. C'est juste. C'est tout.
No difficulties in life at all.
They have.
Yeah, but they don't want to have any. They don't want to face any problem.
That's it.
I mean, what do we do? I mean, often we hear about incredible things, no? Mm-hmm. And we are not touched. The worst things, the worst in the world would happen.
Yeah.
And just we hear it and we don't feel anything by it. Mm. Isn't it terrible too?
Mm.
I mean...
Yeah, that's a way of translating it in some way.
Because what they do on stage is safe. They don't hurt each other. It's just your fantasy, you know. And it's the feeling comes, what you should feel with other things, because it has to do for me something with this.
Mm. Okay.
But it's something for peace and not for war, what I do, yes. I think.
Okay. That's nice.
It's the opposite, you know.
Yeah.
I mean the opposite. You only can show it. I can't go like an angel around, think like peace, peace, peace. What?
By knowing, but not knowing. I'm not so. Maybe somewhere I know, but I cannot explain it. I mean, it's not in my. I can't explain it in words, but I. And you don't notice it stands.
Pina la douce, ni bonne fée, ni sorcière. Pina pleine d'histoire. Histoire d'apprendre à vivre, tout simplement. Chez elle, un peu plus intensément qu'ailleurs, dans tous les cas avec talent. Voilà. La vision de ce soir était évidemment, inévitablement, très partielle. Le monde de Pina est ouvert, un peu infini, un peu évolutif, comme la vie, quoi.
« strikes a match till the spark clearly traces one face is my sweetheart. Two silhouettes in a room almost obscured by the gloom. I was so close yet so far apart. It happened that I stumbled in upon their rendezvous. I heard my sweetheart whispering, I love you, I love you, you know that I do. Two cigarettes in the dark, gone is the flame and the spark, leaving just regrets and two cigarettes in the dark.
C'était Pina Bausch et le Tanztheater de Wuppertal, une nuit magnétique proposée par Chantal Aubry, diffusée la première fois le 8 avril 1985 sur France Culture. Réalisation Jean Couturier. Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr.